Votre invité ce matin, Éric Delvaux, c'est Nicolas Harpagian, directeur scientifique sécurité numérique à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Vous étiez hier à Lille au forum de la cybersécurité. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Nicolas Harpagian. Internet est accusé de faciliter la radicalisation des esprits et donc de favoriser le djihadisme. Ces accusations sont-elles fondées ou est-ce qu'on est en train de faire d'Internet un bouc émissaire ?
En fait, Internet, c'est un outil en quelque sorte agnostique, si on veut prendre la dimension religieuse. C'est-à-dire que ce n'est que ce que les utilisateurs en font. Ce qui est certain, c'est qu'on a là un outil de production, de diffusion d'informations à l'échelle planétaire qui demande des moyens rudimentaires pour communiquer et qui donc est à la portée et tout intérêt pour des gens qui veulent soit faire du prosélytisme, soit revendiquer des actions, quelles qu'elles soient.
Alors justement, hier à Lille, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, expliquait que les plateformes du net, Facebook, Twitter, YouTube ou Dailymotion, pouvaient encore mieux faire. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ?
Alors, déjà être réactif, parce que c'est vrai que souvent quand on parlait de, par exemple, de sites internet djihadistes, en fait on s'aperçoit que ces sites internet djihadistes sont très limités en nombre. Pourquoi ? Parce que faire un site internet c'est compliqué, il faut trouver une adresse, il faut l'héberger, il faut ensuite l'animer. C'est beaucoup de complications pour des gens dont c'est pas le métier et l'activité principale. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont là où il y a du monde, et là où il y a du monde ce sont les plateformes, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est YouTube, et effectivement on s'aperçoit que ces entreprises ont d'ailleurs un statut d'hébergeur. Ça veut dire qu'en principe, elles n'ont pas de responsabilité éditoriale.
Elles sont tout de même chargées de faire le nettoyage.
Alors, de manière a posteriori et de manière assez disparate. L'expérience a montré il y a quelques jours l'attaque du site Twitter, du compte Twitter l'état-major américain pour le Moyen-Orient qui a été piraté par des activistes islamistes. En moins de 40 minutes, il a été rétabli. Et à côté de ça, on peut s'apercevoir que, par exemple, la vidéo du policier qui a été tué à Paris, la vidéo intégrale, non floutée, qui était
disponible. Elle est apparue quelques minutes.
Celle-là, elle est apparue une semaine. C'est-à-dire qu'il a fallu une semaine pour que YouTube la retire. Donc on voit que, alors évidemment, à chaque fois, on nous apporte des solutions, des explications techniques pour justifier ces décalages. Non, en fait, il faut organiser, structurer les liens avec ces grands opérateurs parce qu'ils sont la porte d'entrée naturelle pour beaucoup d'internautes.
Alors, structurer ces liens, ça passe par quoi ?
Alors, soit avoir des correspondants, des gens, des interlocuteurs précis par pays, d'avoir une procédure qui soit rapide de manière à ce que, justement, dès lors que la requête, j'allais dire, est légitime, c'est-à-dire qu'on peut expliquer pourquoi est-ce que, effectivement, cela contrevient à un certain nombre de dispositifs législatifs ou réglementaires, on obtienne techniquement le retrait. Parce que on s'aperçoit que pour beaucoup de gens, je pense notamment à Google, on l'a vu même dans des domaines alors moins graves qui est le piratage de musique ou de films. Google, il y a quelques jours, a décidé a obtempéré en référençant de manière moins efficace les flux de torrents. Torrents, ce sont toutes ces musiques et ces films piratés. Évidemment, la consommation a baissé quasiment de 25% automatiquement. Pourquoi ? Parce que l'internaute de base, il va sur Google et il met des mots-clés simples et c'est pas un informaticien et un technicien, et donc le moteur de recherche est un acteur important.
En Conseil des ministres aujourd'hui, Bernard Cazeneuve devrait annoncer quelques mesures générales pour mieux lutter contre le djihadisme. Vous, l'expert en sécurité numérique, vous attendez quel type de mesures précises ?
Alors, en l'occurrence, vraisemblablement, on va avoir les textes sur le blocage des sites administratifs. On va avoir certainement l'extension à des plateformes comme Skype, parce que Skype, vous savez, qui est maintenant bien connu des gens qui cherchent à appeler à l'étranger, des solutions peu chères et techniquement simples pour téléphoner.
On appelle et on se voit.
On se voit et c'est une fois que vous avez installé ce logiciel, effectivement assez simple de communiquer avec le monde entier à des coûts minimes. Il s'avère que les services ne pouvaient pas intercepter ces flux-là puisque les textes législatifs ne le permettaient pas. Donc ça paraît naturel vu leur popularité et leurs usages. Donc on est plus dans des textes qui vont être retouchés sur des éléments techniques que d'une grande loi.
Oui, parce que l'arsenal vient d'être vu dans une précédente loi qui vient d'être votée.
Et puis les textes historiques ou anciens, parce que je vous rappelle qu'il y a une grande créativité législative, puisqu'en 10 ans, on a quasiment eu une loi par an sur ce sujet.
Donc, dans la dernière, en novembre dernier.
Voilà, exactement.
D'ailleurs, comment est-ce qu'on surveille Internet en France ? Qui s'en charge ?
Alors, il y a différents services en fonction, effectivement, si c'est la lutte contre le terrorisme, avec la DGSI, avec les unités de lutte antiterrorisme qui sont spécialisées dans les suivis communautaires, mais également avec une veille qui peut être faite dans la lutte contre la pédopornographie, qui est faite par la gendarmerie, essentiellement. Mais également, il y a un office central chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information, donc qui est mixte police-gendarmerie. Et enfin, à la préfecture de police, il y a une brigade d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information. Donc en fait, on essaye de voir tout le spectre du terrorisme jusqu'aux propos qui sont, j'allais dire, insultant la délinquance, mais également la criminalité financière ou de manière plus grave en général.
Mais tous les organismes que vous venez de citer, on pourrait ajouter l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, également l'Office de lutte contre la criminalité. Est-ce qu'ils travaillent chacun dans leur coin ou est-ce que tout ça est coordonné?
Alors en fait, le ministère de l'Intérieur a une mission, donc d'ailleurs vient de désigner un préfet qui a justement son rôle est de fédérer, de mettre en musique en quelque sorte
mais
ces actions.
Marche, ça?
Alors pour l'instant, on est au tout début puisque le préfet a été nommé il y a quelques jours. A priori, on va vers une délégation ministérielle à la cybermenace avec ce préfet, Jean-Yves Latournerie, mais également, et par contre, l'ANSSI a autorité pour assurer la protection des infrastructures, soit de l'État, soit des ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, les grands prestataires en fourniture d'eau, d'électricité, d'énergie nucléaire, etc., les sociétés de transport. Donc il y a cette répartition qui, pour l'instant, montre une certaine efficacité.
Eh bien, merci Nicolas Arpagian, donc directeur scientifique sécurité numérique à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, en rappelant que le forum à Lille sur la sécurité numérique s'achève ce soir.
Et on rappelle le titre de votre livre, La cybersécurité, paru il y a 5 ans aux Presses universitaires de France.
Bonne journée.